Ce Shabbat de la Parasha Vaishlach, donc cette année, il arrive en même temps que le jour sacré du 19 qui se lève. Donc la libération d'Almor HaZaken de prison. Alors quel rapport on peut établir entre cette Parasha et la sortie de prison d'Almor HaZaken? Alors pour cela, on va se référer au livre du Tanya lui-même et aussi au Dvar Malchut du Rabbi. Alors commençons par le livre du Tanya. C'est bien de se rappeler ici que l'Almor HaZaken il a expliqué que quand le soleil se lève et qu'il se couche, la course du soleil, elle exprime le fait de se prosterner. C'est-à-dire que tous les astres du ciel, toutes les constellations, elles ont un mouvement de prosternation vers la Shrina. Donc on voit ici, on peut se rappeler du verset « De ma chair, je verrai Dieu ». Ça veut dire de mon corps, de tout ce qui se passe dans mon corps, je peux tirer des enseignements divins. Notamment ici, on voit que le monde lui-même, le monde physique, tous les phénomènes physiques, ils expriment l'annulation totale par rapport à Dieu, que tout est entre les mains de Dieu. Donc de ma chair, je verrai Dieu. Donc d'un phénomène physique, je peux tirer un enseignement chassidique, quelque chose qui va m'aider dans mon service divin. Alors en quoi cet enseignement il s'applique ici aussi? Dans notre cas, au sujet du 19 qui se lève, c'est que le rabbi va nous enseigner dans le Dvar Malchut, il va nous parler de la lune. Pourquoi la lune? Parce que la lune représente l'assemblée d'Israël. Donc il va expliquer la diminution de la lune. La lumière de la lune diminue pendant la deuxième partie du mois, de chaque mois, et elle augmente pendant la première partie du mois, c'est-à-dire du 1er au 15. La lune est née à partir d'un point lumineux et elle va en grandissant. Elle est pleine le 15 du mois et à partir du 15, elle redescend. Sa lumière diminue peu à peu jusqu'à s'annuler totalement le 30 du mois et ainsi de suite. Donc on voit que la lune elle va en diminuant pendant la deuxième partie du mois. Et le 19 qui se lève, il tombe justement pendant cette deuxième partie. Alors la question que le rabbi va poser... C'est vraiment une question qui soulève beaucoup qui va nous donner beaucoup d'enseignements. Il va nous expliquer que, en général, les fêtes juives, elles arrivent pendant le 15 du mois, lorsque la lune est pleine. Donc la lune qui est pleine, quand on voit sa pleine lumière, on imagine que l'assemblée d'Israël, qui est comparée à la lune, elle reçoit une pleine lumière. Donc elle est totalement éclairée, puisqu'on compare l'assemblée d'Israël à la lune. Et Hachem, on le compare à la lumière du soleil qui éclaire la lune, puisque la lune, toute sa lumière, elle la reçoit du soleil. Alors la question qui se pose, c'est que comment ça se fait que donc toutes les fêtes juives, elles vont tomber le 15 du mois, et même, on voit par exemple le jour de Pourim, il arrive le 15 du mois, donc quand la lune est pleine, et pourquoi le 19 qui se lève, c'est un moment où la lune, elle va en diminuant. Donc on voit que la lumière de la lune, elle diminue à ce moment-là. Et alors comment ça se fait? Comment on peut expliquer que d'une part le 19 qui se lève, on parle de la libération de l'Almor HaZaken de prison, donc c'est un grand dévoilement. Comment on peut comparer ce dévoilement-là? On peut l'associer à la diminution de la lumière de la lune, comme on l'a dit, pendant la deuxième partie du mois, en l'occurrence ici le 19 qui se lève. Alors le rabbi va nous donner un exemple par lequel on va comprendre vraiment quelque chose de fondamental. Il va nous expliquer que en réalité, pourquoi la lumière de la lune est grandie du 1er au 15, c'est parce qu'à ce moment-là, la lune s'éloigne du soleil. À partir du moment où la lune s'éloigne du soleil, sa lumière va en grandissant. Et quand la lune se rapproche du soleil, ça veut dire à partir du 15 jusqu'au 30, à ce moment-là, sa lumière va en diminuant. L'exemple qui nous donne ici, toujours on doit comprendre le principe que la lune elle reçoit sa lumière du soleil, donc il y a ce qu'on appelle le mekabel, celui qui reçoit c'est la lune, et le mashpia c'est le soleil, c'est celui qui va dispenser sa lumière à la lune. Alors cet exemple-là du mekabel et du mashpia, c'est celui d'un chassid et du rabbi. Le rabbi lui-même il représente le mashpia, celui qui va dispenser sa lumière au chassid, et le mekabel c'est le chassid donc qui va recevoir la lumière du rabbi. Quand la lune se rapproche du soleil, on voit, on compare cette image-là à l'image d'un chassid qui va rentrer dans le bureau du rabbi. À partir du moment où le chassid il se trouve face au rabbi, À ce moment-là, il est totalement soumis au Rabbi, donc il va recevoir la lumière du Rabbi, donc c'est comparable à la lune qui se rapproche du soleil et sa lumière qui va en diminuant. À partir du moment où le chassid se rapproche du Rabbi, sa lumière va aussi en diminuant, puisque à ce moment-là, il est totalement annulé au Rabbi, donc il n'éclaire pas. Quand est-ce que le chassid va commencer à éclairer? C'est quand il va sortir du bureau du Rabbi, c'est quand il va s'éloigner donc du Rabbi, à ce moment-là, il va commencer à éclairer. Il va commencer à éclairer, il va éclairer de la lumière qu'il a reçue du Rabbi. Donc cette image-là du chassid, elle doit nous faire comprendre ce qui se passe ici entre le soleil et la lune. On doit comprendre que avant la création, pendant la création du monde, Dieu il a créé la lune aussi grande que le soleil. Seulement, il a diminué sa taille parce qu'elle avait agi, elle avait eu un comportement un peu orgueilleux. Donc il lui a donné une leçon, il a diminué sa taille. Et ce n'est que dans les temps futurs, au moment de la Géoula, que la lune elle va retrouver sa taille. Et même, elle va même être non seulement retrouver sa taille, mais en plus, elle va avoir une lumière qui est supérieure à celle du soleil. Donc, elle va recevoir au moment de la Géoula son rôle véritable. C'est-à-dire qu'elle va retrouver non seulement sa taille première, mais en plus, elle va s'élever au-dessus du soleil lui-même. Cette image du chassid qui se trouve devant le rabbi, elle doit nous faire comprendre qu'il s'agit d'une fusion, entre le chassid et le rabbi. À partir du moment où le chassid, il est face au rabbi, quand il se trouve dans le bureau du rabbi, comme on le sait, quand il se trouve dans les quatre coudées du rabbi, le rabbi va dévoiler l'essence de son âme. À partir du moment où le chassid, il va dévoiler l'essence de son âme, à ce moment-là, on peut considérer qu'il y a une fusion totale entre lui-même et le rabbi. Donc ce moment-là, c'est ce moment-là qui est au centre même du Dvar Malchut, et au centre même du 19 qui se lève, et même, comme on verra, au centre même de la Parasha Vaishlar. Pourquoi? Parce que précisément par le travail de s'annuler soi-même, on peut connaître les élévations les plus élevées, les niveaux les plus hauts. À partir du moment où un chassid fait de lui-même un réceptacle pour recevoir la lumière du rabbi, donc ça suppose, ça implique que lui-même il est totalement soumis au rabbi. Donc le fait de se rapprocher de son mashpia, évidemment ça implique de la part du chassid un travail considérable. On voit que même il y avait des chassidim qui avant de rentrer dans le bureau du rabbi devaient se préparer parce qu'ils estimaient qu'ils n'étaient pas encore des réceptacles pour recevoir cette lumière-là. Mais à partir du moment où un homme il va travailler pendant les jours de la semaine, alors on dit, la Torah nous dit qu'il va manger le jour du Shabbat. Le Shabbat, on peut comparer ce jour au moment où le chassid se trouve dans le bureau du rabbi. Celui qui travaille pendant la semaine, celui qui se rapproche du rabbi, de la même façon que la lune, elle va se rapprocher du soleil, à ce moment-là, elle va être dans un état où elle va pouvoir recevoir une lumière qui est considérable. Le rabbi va élever l'essence de son âme. Donc on voit que le moment où la lune se trouve par rapport au soleil, elle est très proche du soleil, donc elle est totalement annulée au soleil. C'est vrai que d'un côté, on voit qu'elle n'éclaire plus, mais finalement, le rabbi vient nous dire que pourquoi elle n'éclaire plus? Parce qu'il y a deux choses qui sont possibles. À partir du moment où le chassid, il va éclairer, ça veut dire qu'il va nous donner un dévoilement de lumière. Mais à partir du moment où le chassid, il se trouve devant le rabbi et qu'il n'éclaire pas, ça sous-entend un dévoilement beaucoup plus élevé que celui de la lumière. Ça sous-entend le dévoilement de l'essence. Ça signifie que l'essence, elle se révèle, à partir du moment où l'essence se révèle, alors on voit une absence de lumière. Et à partir du moment où on voit de la lumière, ça signifie que l'essence, elle se cache. C'est ça le principe qu'on doit comprendre à partir d'un phénomène physique et qu'on doit appliquer dans nos vies. Ça signifie finalement que quand on voit, l'Admor HaZaken, il va comparer donc les astres et il va nous expliquer que toutes ces armées, toutes les constellations qui vont dans ce mouvement pour se prosterner devant la Shrina, à partir de là, on doit comprendre à quel point un chassid, il doit s'annuler totalement devant Dieu. Puisqu'on voit que même ce monde physique, il s'annule totalement devant Dieu. Mais là aussi, on doit comprendre que quand on voit la lumière de la lune, qui diminue dans le ciel, on doit comprendre que finalement, on se rapproche d'un dévoilement beaucoup plus élevé, puisque c'est le dévoilement de l'essence divine. Donc ce moment où la lune elle n'éclaire pas, il sous-entend un dévoilement supérieur, c'est le dévoilement de l'essence, c'est la Géoula. À partir du moment où on parvient à cette annulation totale, alors on arrive au dévoilement de l'essence divine, c'est le moment de la Géoula, quand on dit que la lune elle sera aussi grande que le soleil. Finalement, ça sous-entend aussi que le chassid, il va arriver à un niveau supérieur, que le rabbi va dévoiler l'essence de ses chassidim, l'essence de l'âme de ses chassidim. Donc ça signifie qu'ils parviennent à une fusion véritable avec le rabbi. Le moment de 19 qui se lève, donc, on voit c'est un moment, donc c'est la deuxième partie du mois de qui se lève, donc c'est un mois qui est très froid. C'est vraiment un moment où il fait très froid. Donc, comme on l'a dit, ce moment-là où il y a une absence de lumière, c'est un dévoilement de l'essence. Donc, on doit comprendre que ce jour-là de 19 qui se lève, il arrive pendant le troisième mois de l'hiver, et il s'oppose au troisième mois de l'été, qui lui-même représente le don de la Torah révélée. Le don, quand Moshe, il a reçu la Torah au Mont Sinaï, c'est la Torah révélée qui va dévoiler aux enfants d'Israël. Donc, par rapport à ça, on voit que le troisième mois d'hiver, le 19 qui se lève, il tombe donc à un moment où les jours, ils sont très courts, et la lune, elle est très présente dans le ciel, elle est plus présente que le soleil. Contrairement au mois d'été, où on voit que le soleil lui-même, il domine les jours, et la lune, elle est plutôt absente pendant ces moments-là. Donc, qu'est-ce que ça représente au niveau spirituel? Ça représente que pendant l'été, c'est la chaleur, c'est la lumière du soleil qui va dominer. Les jours, donc, comme on l'a dit, sont longs. Et le soleil qui domine, donc, ça fait référence au travail de l'âme. Quand un juif, il travaillait, il va faire briller la lumière de son âme, les forces de son âme, qui vont illuminer le corps. Mais à l'opposé, pendant le mois d'hiver, on voit que c'est le corps lui-même qui domine. C'est-à-dire que c'est pendant le mois d'été, c'est un dévoilement du haut vers le bas. C'est le soleil qui dispense sa lumière à la terre. Pendant le mois d'hiver, c'est le contraire. C'est la lune qui va dominer, donc c'est le travail du bas vers le haut. C'est le travail des juifs eux-mêmes, l'assemblée d'Israël qui est comparée à la lune. Donc quand c'est un juif qui va travailler du bas vers le haut, ça exprime aussi le travail du bas vers le haut. Ce sont les mitzvot qu'il accomplit au moyen du corps. Contrairement à l'été où ce sont des mitzvot qu'il va accomplir surtout au moyen de l'âme, comme par exemple le fait d'étudier la Torah ou le fait de prier. Mais le mois d'hiver, donc, c'est un travail du bas vers le haut, c'est un travail du corps lui-même. C'est-à-dire vraiment, on voit ici l'importance, puisqu'on a dit que pendant cette période d'hiver, c'est le dévoilement de l'essence, on doit se rappeler que le corps lui-même, il cache l'essence divine. Dieu, il a créé le corps, la matière, au moyen de son essence, et la racine du corps, elle est supérieure à celle de l'âme. Donc ici aussi, on voit que dans notre travail divin, on doit travailler du bas vers le haut, à l'exemple de la lune, et surtout on doit comprendre que cette diminution de la lumière de la lune, qui correspond au dévoilement de l'essence, elle correspond à notre bitoul, à notre faculté vraiment de nous soumettre à la volonté de Dieu, à notre capacité à nous soumettre aux enseignements du Rabbi, de manière vraiment à être un chassid qui accomplit vraiment de tout son pouvoir les injonctions du Rabbi, et qui se lie à Dieu de cette manière. Donc c'est pour ça même qu'on dit que pendant le mois d'hiver, Dieu il va prendre plaisir du corps d'un juif. On doit comprendre que c'est comme cette image-là, quand on voit deux personnes qui vont se serrer très fort pour se tenir chaud, de la même façon Dieu il agit avec l'assemblée d'Israël, et il va donc dévoiler notre essence. C'est ça le point qui est donné ici, c'est que le jour du 19 qui se lève, il représente la sortie de l'Admorazakan de prison, et aussi donc nous-mêmes, quand on sort de prison, c'est-à-dire qu'on sort de toutes les limites, et en particulier de celles du corps. À partir du moment où on a cette totale soumission, et que c'est important aux yeux de Dieu, puisque le corps d'un juif, il est précieux aux yeux de Dieu, quand on agit avec cette totale soumission, alors on va faire jaillir de l'obscurité de la lumière. Donc ce qui est important ici de comprendre, c'est que l'essence elle-même, elle s'accorde avec l'absence de lumière. Le dévoilement de l'essence, il s'accorde avec l'absence de lumière. C'est pour ça qu'on allume les bougies de Hanouka, on allume, donc pendant cette deuxième période du mois de Kislev, on va allumer les bougies, une première bougie, puis le deuxième jour, deux bougies, puis trois bougies. Donc on voit que ça va en croissant, ça va en montant, contrairement à la lumière de la lune qui diminue. Donc les lumières de Hanouka qu'on allume, et puis dans un ordre croissant, ça implique, ça exprime plutôt le dévoilement de l'essence divine. On pourrait dire ici un enseignement donc sur la Parasha Vayishlach, puisque la Parasha Vayishlach, on apprend dans le Torah Or que Yaakov Avinu, il attendait, il pensait que son frère Esav, il était parvenu à faire un travail sur lui-même qui allait lui servir, c'est-à-dire vraiment qui allait servir à Yaakov. Et il s'est rendu compte que finalement non, que Yaakov, que Esav n'avait pas accompli ce travail. Donc, on dit, comme ça, le Morzaken, il dit que Yaakov, quand il se tenait au bord du fleuve de Yabok, et il n'a pas traversé le fleuve, il attendait son frère Esav. Comme ça, c'est écrit dans le Torah Or. Ça signifie que, comme il a vu que Esav, il n'avait pas accompli son travail, il a attendu son frère. Comment on doit comprendre ça? On pourrait se rappeler de cet enseignement du Rav Futterfass, du Mashpia, qui a expliqué que quand l'armée russe a décidé de choisir des chevaux qui sont aptes à faire la guerre, elle les faisait traverser la Volga, c'est un fleuve qui est tumultueux, et quand il regardait le cheval qui va traverser. Alors quand un cheval il parvient à l'autre, d'une rive à l'autre, à ce moment-là, on pourrait penser qu'on pourrait sélectionner ce cheval-là. Non. On voit que on attendait de voir la réaction du cheval. Si un cheval, il était au milieu de la rivière, il se tournait pour voir s'il y avait un autre cheval qui avait du mal à avancer, alors il faisait marche arrière pour aider cet autre cheval à traverser avec lui la rivière. Donc on pourrait comprendre à partir de là que même c'est l'attitude de Yaakov. On pourrait expliquer que Yaakov qui attendait son frère, en fait, quand il s'est battu avec son frère, c'était aussi pour raffiner, pour parvenir à un niveau, pour élever vraiment le niveau de Esav à un niveau supérieur. Donc on voit que Yaakov, pour parvenir à un niveau supérieur, il va pas agir de manière, si on peut dire, égoïste, il va attendre, il est obligé de passer par ça, justement, par le fait de raffiner lui-même Esav. Donc cette idée-là, elle nous inspire c'est tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, puisqu'on voit que quand on voit une absence de lumière dans le ciel, comme on l'a dit au sujet de la lune, on pourrait penser que cette obscurité, elle est l'expression d'une obscurité spirituelle véritable, et en fait, c'est pas du tout le cas. Ça signifie que derrière l'obscurité, derrière l'inertie même de la matière, quand on voit ce monde matériel qui est inerte, on pourrait penser qu'il lui manque une vitalité. Eh bien non, c'est tout l'enseignement du 9 qui se lève, c'est précisément de comprendre que même derrière l'absence de lumière, on doit comprendre qu'il y a un dévoilement de l'essence divine. Et ça, pour parvenir à ce niveau-là, pour apprendre à voir justement, comme il a dit le Rabbi dans le Dvar Malchut de la paracha précédente, il nous a dit que pour ouvrir les yeux, que la Géoula était là, il fallait seulement ouvrir les yeux. Qu'est-ce que ça signifie ouvrir les yeux? Le Rabbi répond, c'est étudier la Chassidoute. C'est pour ça que le 19 qui se lève, c'est le point essentiel, c'est l'essence de la Torah, la Chassidoute elle-même, Torah Hadasha, puisque le Dvar Malchut, il fait vraiment partie de la Torah Hadasha. Le fait d'étudier la Torah Hadasha, l'huile même de la Torah, l'âme de l'âme de la Torah, l'essence de l'âme de la Torah, alors ça nous permet d'ouvrir les yeux vraiment et de voir la lumière là où il semble qu'il n'y en a pas, puisque finalement, comme on l'a dit, l'absence de lumière, elle est le signe même du dévoilement de l'essence divine. Voilà, Bezrat Hashem, que cette fête de Yutet qui se lève et ce Shabbat, Bezrat Hashem, et même avant, soit le jour même où le Mashiach se dévoile à nos yeux, avec l'aide de Dieu, Shabbat Shalom, et une bonne année chassidique pour chacun d'entre nous. Rosh Hashanah Chassidut. Bizrat Hashem.